8h13 sur Europe 1, votre invitée Sonia Mabrouk ce matin est candidate à l'élection présidentielle.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Vous dites vouloir être la présidente des libertés françaises. Pourquoi ? La France est-elle une démocrature à vos yeux ?
Il y a incontestable, j'irai pas jusque là bien sûr, hein, mais il y a un problème démocratique en France et ça fait quand même déjà un certain nombre d'années. Il y a un problème démocratique d'abord parce que l'Assemblée nationale, qui est censée être l'instance représentative, hein, qui vote la loi, n'est pas représentative en réalité des différents courants et du poids de ces différents courants en France. Il y a un problème démocratique qui s'est symbolisé dans le référendum de 2005 où les Français disent non à la Constitution et l'Assemblée nationale, grâce à une majorité de députés, eh bien, impose, contre la volonté du peuple français, un texte qui est un texte qui régit évidemment les grands choix, mais aussi la vie quotidienne. Oui, je crois que la France a besoin de plus de démocratie. Plus de démocratie, ça veut dire la proportionnelle, ça veut dire des référendums sur des grands sujets. Ça veut dire le référendum d'initiative populaire, c'est la possibilité pour 500 000 personnes de susciter eux-mêmes un référendum. Tout cela est absolument nécessaire et puis surtout, il faut qu'on respecte la volonté qui est exprimée. Parce que ça ne sert à rien de demander l'avis des gens si après on ne respecte pas cet avis.
Et l'un des symboles, Marine Le Pen, de ces atteintes aux libertés en France, c'est selon vous le pass sanitaire. Vous dénoncez une atteinte disproportionnée à la liberté, mais pour certains, vous arrivez après la bataille. C'est de la récupération politique.
Non, je crois n'avoir jamais changé d'avis sur ce sujet. J'ai toujours été contre le pass sanitaire. J'ai voté contre le pass sanitaire à l'Assemblée nationale et à chaque fois qu'on m'a interrogé sur ce sujet, j'ai exprimé le fait que cette mesure m'apparaissait disproportionnée. Cette mesure et toutes celles qui en sont les conséquences aussi, c'est-à-dire l'interdiction d'exercer les soignants qui ne seraient pas vaccinés. On se retrouve aujourd'hui dans une situation insensée où d'ailleurs, en Outre-mer, on finit par ne pas appliquer cette décision parce qu'on voit bien qu'elle est inapplicable, elle vise à priver de médecins, à priver de personnel soignant
des
territoires entiers et donc à nuire à la santé des Français.
Lors du premier vote sur le pass sanitaire en mai dernier, pas un député Rassemblement National était présent pour s'offusquer, comme vous le faites ce matin avec beaucoup de vivacité, de cette atteinte intolérable à la liberté.
Non, c'est faux. Nous avons encore une fois voté contre le pass sanitaire.
Lors du premier vote,
Il n'y a pas de discussion là-dessus. Non, vote arrivé à 5h du matin, comme d'habitude, comme le gouvernement sait le faire. Mais en l'occurrence, vous voyez, moi j'ai passé deux nuits à l'Assemblée nationale, deux jours et deux nuits
contre
le pass sanitaire, dont une nuit blanche totalement, précisément pour défendre les positions qui sont les nôtres et s'opposer à ce pass sanitaire. J'ai fait mon travail de député,
Je fais mon travail de responsable politique. Je dis que lors du premier vote, il n'y avait pas un député à Rassemblement National, mais contre l'extension, vous étiez présente, vous l'avez rappelé. Mais pas lors du premier vote.
Oui, madame, je vous dis, ça a dû arriver à 4h du matin, ce sont des choses qui arrivent. Nous ne sommes que 6. Hein. Voilà, je tiens à le rappeler. Et ça rejoint, si vous pouvez, si vous le permettez, ma première intervention sur la nécessité de la proportionnelle et la nécessité que à l'Assemblée nationale, un mouvement comme le Rassemblement national, qui est le premier mouvement en France, puisse avoir une représentativité nécessaire pour pouvoir être présent 24 heures sur 24 sur l'intégralité des textes.
Alors, autre symbole d'atteinte grave aux libertés, vous en avez parlé lors de votre discours à Fréjus, ce sont les atteintes faites aux femmes, avec notamment le harcèlement de rue à connotation sexuelle. Est-ce que vous proposez d'en faire un délit aujourd'hui ?
Oui. Je propose d'en faire un délit. Je considère que ce ne sont pas des faits divers. C'est un signal que la société doit prendre très au sérieux. Et non seulement je considère qu'il faut en faire un délit, je pense qu'il faut qu'il y ait une circonstance aggravante s'il est commis en réunion, c'est-à-dire à plusieurs, ce qui est souvent le cas. Et surtout, la proposition que je fais, c'est lorsqu'une condamnation intervient, que l'auteur ou les auteurs soient inscrits au fichier des criminels et délinquants sexuels, comme d'ailleurs ceux qui, publiquement, sur les réseaux sociaux, font l'apologie des crimes ou des délits sexuels, parce que ça permettra de suivre ces personnes. Je pense que quand on fait l'apologie d'un crime ou d'un délit de ce type, alors on peut passer à l'acte, exactement d'ailleurs comme sont inscrits au fichier au FSPRT, ceux qui font l'apologie du terrorisme.
Mais la loi propose déjà un délit d'outrage sexiste. C'est une infraction, l'interdiction du harcèlement de rue est dans le code pénal.
Oui, mais c'est une contravention.
Mais vous savez qu'il y a une gradation des plus c'est grave, plus il peut y avoir une peine. C'est-à-dire, est-ce que vous ne confondez pas, Madame Le Pen, l'outrage sexiste qui est puni d'amende et l'agression sexuelle? S'il y a une agression sexuelle dans la rue.
Non, je ne vous parle pas d'outrage sexiste. Vous savez, j'étais un petit peu avocate dans une autre vie, et par conséquent, je sais très bien de quoi je vous parle, de l'outrage sexiste.
Donc, pour qu'on soit bien d'accord, il peut y avoir une peine de prison pour un outrage sexiste.
Oui, je considère que, encore une fois, les agressions qui sont, y compris verbales, dont sont victimes les jeunes filles et les femmes en France, sont dramatiques. Moi, je n'admets pas l'idée que des jeunes filles ne puissent pas faire 500 mètres dans une rue sans être insultées avec des insultes à caractère sexiste. Ça crée un sentiment d'angoisse profond chez les jeunes filles et chez les jeunes filles et les femmes en France.
Dans les tribunaux, comment ça va se passer?
J'espère bien. Mais vous savez, moi, je crois beaucoup au caractère dissuasif de la peine. Et je pense que si précisément ces actes deviennent des délits et s'ils entraînent l'inscription sur le fichier des criminels et délinquants sexuels, ceci aura un effet dissuasif pour tous ceux qui auraient envie de continuer à persécuter les jeunes filles et les femmes dans les rues de France.
On vous entend ce matin, vous êtes engagé sur ce sujet, mais avez-vous voté la loi d'août 2018, dite Schiappa, qui justement a fait entrer dans le code pénal le harcèlement de rue?
Mais encore une fois, madame, je crois que une contravention, c'est comme si on ne votait rien.
Donc vous n'avez pas voté.
Je pense que pour une raison simple, madame Mabrouk, c'est qu'en réalité, tout ce qui relève de la contravention dans notre pays, les contraventions ne sont pas payées. C'est exactement comme si on ne faisait rien. Et pour aussi une raison simple, c'est que beaucoup d'huissiers n'ont même plus envie d'aller dans un certain nombre d'endroits pour aller récupérer le montant de ces contraventions, tellement ils ont peur.
Vous la trouvez insuffisante, mais cette loi, ça a été, même si elle est insuffisante, ça a été l'une des premières quand même à verbaliser, à punir ainsi le harcèlement de rue.
Les mots et l'objectif peuvent être une bonne chose, mais il faut que ce soit utile, efficace et applicable. Sinon, ça ne sert à rien.
Ça
reste de la gesticulation politique. Et moi, je pense que les femmes et les jeunes filles de France attendent quelque chose d'utile, d'efficace et d'applicable.
Plus largement, sur le plan de la sécurité, Marine Le Pen, Emmanuel Macron sera à Roubaix tout à l'heure. Pour clore le Beauvau de la sécurité, le président veut montrer qu'il est solide sur le plan régalien, tout comme son ministre de l'Intérieur qui, après les affrontements à Val-de-Reuil, a engagé la dissolution de la Ligue de Défense Noire Africaine. Est-ce que ce sont autant pour vous de signes d'autorité de l'exécutif ?
De ce que je sais, le président de la République va annoncer en réalité un renforcement du contrôle des policiers.
L'information Europe 1, par les parlementaires.
Non mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que en réalité, à chaque fois qu'il va sur le terrain de la sécurité, c'est pour taper sur la tête des policiers. Moi, j'aimerais bien qu'il se mette un peu à taper sur la tête des délinquants et des criminels. Ça pourrait être une forme de nouveauté. C'est surtout beaucoup plus efficace pour lutter contre l'insécurité. Donc, il a vraiment un biais, le président, qui est un biais de suspicion à l'égard de la police nationale, d'a priori négatif à l'égard de la police nationale. Il l'a démontré à plusieurs reprises. Il a parlé lui-même, comme président de la République, des violences policières. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques individus parfois très contrôlés d'ailleurs déjà, qui sont extrêmement contrôlés.
C'est probablement
le corps le plus contrôlé.
Mais quand vous dites suspicion, ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'est pas un défenseur, je veux dire tout à fait naturel, de la police républicaine dans notre pays?
Bon, vous savez, il y a en France, selon les mouvements politiques, soit une confiance dans la police, soit une suspicion à l'égard de la police.
Vous le classez dans quel
camp ? Les mouvements de gauche, par exemple, on l'a encore vu à la fête de l'humanité, où une foule entière hurle sa haine de la police, eh bien, ont une forte suspicion à l'égard de la police. Et je crois qu'Emmanuel Macron se met dans ce biais-là. Ça n'est pas le mien, encore une fois. Non seulement j'ai confiance dans la police, mais je suis même pour mettre en place une présomption de légitimité défense pour les policiers, parce qu'il faut les réarmer moralement. Tout ce qui est fait aujourd'hui par Emmanuel Macron vise à les désarmer moralement. C'est aussi grave, si je puis me permettre, que de les désarmer matériellement.
Mais Marine Le Pen, vous êtes parlementaire. En quoi ce nouvel outil de contrôle des forces de l'ordre par des députés comme vous, par des sénateurs, serait vu comme quelque chose, une attaque contre les forces de l'ordre? C'est un garde-fou supplémentaire.
Mais en quoi est-il utile? C'est ça la vraie question. En quoi est-il utile par rapport à ce qui existe déjà et qui est encore une fois un des contrôles les plus important sur un corps de fonctionnaires.
La liberté que vous voulez défendre, c'est important qu'on continue de décliner sur ce sujet. C'est aussi la souveraineté des Français. Souveraineté, Madame Le Pen, par rapport aux taxes et juridictions européennes. Et selon vous, une modification de la Constitution suffirait à prendre le dessus sur les taxes européens ?
Oui, moi, si vous voulez, nous avons réfléchi sur le plan juridique et en réalité, le problème principal, c'est le problème de l'immigration. C'est sur ce sujet de l'immigration que les jurisprudences, bien souvent d'ailleurs, plus que les textes internationaux, les jurisprudences, parfois abusives, ont privé les Français de la possibilité et les pouvoirs publics de la possibilité d'agir dans ce domaine. Donc, sans renier notre signature, ce qui reviendrait à renier, pour le coup, l'État de droit, c'est-à-dire les droits auxquels les Français aspirent, eh bien, il faut pouvoir, dans le domaine de l'immigration, prendre des décisions constitutionnelles qui seront supérieures dans leur application
à
la jurisprudence internationale.
Vous êtes avocate, vous connaissez le principe de conventionnalité et de la hiérarchie des normes. Dès lors qu'elle a été ratifiée par les deux assemblées, une convention européenne s'impose sur la Constitution, même si vous la changez. Vous savez mieux que moi.
Oui, mais ce n'est qu'encore une fois, ce sont les jurisprudences qui nous posent des difficultés, ce sont des règlements qui nous posent des difficultés. Est-ce que vous savez que dans la Constitution, il y a quasiment rien. Pardon, excusez-moi, c'est important. Est-ce que vous savez que dans la Constitution, il y a quasiment rien sur la nationalité ? Il y a quasiment rien sur le statut des étrangers. Je pense qu'il faut combler cette lacune. Et c'est parce qu'il n'y a rien dans la Constitution, Madame Mabrouk, que précisément les jurisprudences ont tendance à devenir abusives et contraires, je crois, à la volonté des Français. Donc il faut réintégrer dans la Constitution la volonté des Français en matière de maîtrise de l'immigration, en matière de nationalité, les critères
pour l'obtenir. Mais tant que la France est dans l'Union européenne, et c'est inscrit noir sur blanc dans la Constitution, c'est l'article 81-1, ce que vous promettez, Madame Le Pen, ne marche pas, car la Convention européenne,
vous vous trompez sur ce sujet. Je vous le dis vraiment avec beaucoup de tranquillité et beaucoup de fermeté, de certitude.
Vous l'affirmez ce matin.
Vous vous trompez sur ce sujet. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a pas loin de nous une constitution, par exemple, qui met en œuvre la priorité nationale. Même si elle n'est pas nationale sur ce sujet, c'est la constitution monégasque. La constitution monégasque, elle dit quoi ? Elle dit les étrangers ont évidemment accès à la défense de tous leurs droits privés et publics, sauf ceux qui sont réservés aux nationaux. Eh bien, c'est exactement en substance ce que nous allons mettre dans la Constitution française et qui va permettre, encore une fois, aux Français de reprendre
Madame
la maîtrise de l'immigration.
Entre traité et convention, ce n'est pas la même chose.
Non, mais Madame Mabrouk, je vous le dis, je vous le redis gentiment, vous trompé. Donc nous aurons très certainement ce débat avec des juristes, mais je peux vous affirmer,
vous l'avez déjà eu,
je peux vous affirmer
vous cela.
Qu'à compter du moment où nous aurons fait voter ce référendum dont une partie sera constitutionnelle sur l'immigration, que je soumettrai dès que je serai élue présidente de la République, ça ne fera pas disparaître les textes internationaux qui sont contraires, mais ça les rendra inapplicable en droit interne français.
Alors, la liberté que vous défendez, Madame Le Pen, est-ce que c'est celle aussi de la liberté d'expression ? Éric Zemmour, privé d'antenne sur CNews, alors qu'il n'est pas encore candidat, est-ce que c'est un coup de canif à la liberté d'expression et au pluralisme que vous chérissez, je suppose ?
Non, je chéris évidemment le pluralisme, je défends évidemment la liberté d'expression, mais je crois qu'on a dit un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet. La question n'est pas est-ce qu'Éric Zemmour a le droit de parler. D'ailleurs, je crois qu'il parle beaucoup sur beaucoup d'antennes et on s'en réjouit bien sûr. La question, c'est le statut de candidat ou de non-candidat qui fait que...
Et où vous le situez ?
Bien écoutez, ça chacun peut avoir son opinion.
Mais la vôtre nous intéresse ce matin.
Mais je pense que lorsqu'on imprime et que l'on colle des affiches Zemmour président et que l'on recherche des parrainages à l'élection présidentielle, alors on est candidat, ce qui est une bonne chose. Mais voyez,
chose qu'il soit candidat.
Non, mais c'est une bonne chose s'il le souhaite. Mais si vous voulez, on ne peut pas être en même temps candidat et en même temps chroniqueur parce que ça rompt une forme d'équilibre qui est aussi un gage de démocratie et qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer aussi en fonction du poids qu'il représente.
Eh bien, sur ce sujet et d'autres, on va continuer à en parler. Marine Le Pen, vous restez avec nous. On poursuit notre entretien dans quelques instants. C'est le nouveau dispositif présidentiel avec vous et bien sûr tous les candidats. Je serai bien entourée avec vous, Dimitri, et Mathieu Bock-Côté.
Qui va nous rejoindre dans un instant, effectivement. Allez, petite pause. Dans un instant, le journal permanent et reprise du grand entretien avec Marine Le Pen. À tout de suite.
Europe Matin.